Radio Barque, donc, notre invité aujourd'hui est Franck Doucet, administrateur des remparts et du château comtal à la cité de Carcassonne. On a largement déjà évoqué comment fonctionne administrativement ce centre des monuments nationaux. Alors, le but, vous l'avez évoqué, c'est d'abord de faire visiter quand même ce monument, mais une visite, c'est pas quelque chose d'aussi simple peut-être de prime abord que ça pourrait sembler. Je veux dire par là que c'est évolutif. Vous avez le souci d'offrir autre chose.
C'est un souci permanent. Vous avez raison d'insister sur ce point. C'est un souci permanent parce que, voyez-vous, les pratiques culturelles, la manière dont on aborde ces visites a considérablement évolué. On ne visite plus un site aujourd'hui comme il y a 10 ans, j'ai même envie de vous dire comme avant Covid. Je pense que le Covid a été aussi pour beaucoup dans le bouleversement d'un certain nombre de pratiques. Maintenant, on vient entre amis, on vient en famille, on vient, je suis frappé par ça d'ailleurs, dans un même groupe, c'est très intergénérationnel. On a les enfants, les petits-enfants, les grands-parents.
Ce qui n'était pas le cas auparavant.
Ce qui n'était pas forcément le cas. Maintenant, on vient en groupe. Et du coup, les attentes ont un petit peu évolué. Alors certes, on a une appétence qui est toujours là pour la découverte d'un patrimoine d'exception. Mais on a envie aussi de passer un bon moment. Et c'est-à-dire que la visite telle qu'on la conçoit aujourd'hui, on doit tenir compte de ces deux facteurs. On doit être en capacité de s'adresser à la diversité de ce public. C'est pas évident, hein, quand vous avez trois générations devant vous, eh bien, il faut être en capacité de les captiver, de leur donner l'impression qu'on va s'adresser spécifiquement à chacun d'eux. Et tout ça, c'est un travail profond. C'est une vraie réflexion, mais qui est menée sur site, avec des équipes qui sont là pour ça.
C'est-à-dire qu'il faut être à la fois un peu didactique et distrayant en même temps.
Oui, tout à fait. Cette notion-là, elle est aujourd'hui importante. Et si on ne la prend pas en considération, eh bien, on risque de passer à côté, si je puis dire, d'une attente forte de nos visiteurs. C'est ce qui rend notre mission, j'en reviens à la passion dont je parlais tout à l'heure, notre mission absolument passionnante. Et puis, rien n'est jamais acquis. Rien. Il faut en permanence remettre le travail sur l'établi. Il faut en permanence se poser des questions et il faut en permanence renouveler l'offre que l'on va faire à destination de la diversité de ces publics.
C'est-à-dire que, alors, suivez le guide banal, c'est plus comme ça que ça fonctionne.
Ce n'est plus comme ça que ça fonctionne, même si on peut être amené à suivre le guide. D'ailleurs, j'aime aussi particulièrement, peut-être encore plus que la notion de guidage, j'aime la notion de médiation. Voilà, c'est-à-dire que ce que j'aime, c'est qu'on puisse être en capacité de transmettre un savoir. Et transmettre un savoir, c'est une mission passionnante, c'est une mission noble, s'il en est, hein, véritablement. Et ça nécessite, d'abord, soi-même de bien maîtriser ce savoir, mais surtout d'être en capacité
de le transmettre,
à tous les publics. Oui. Et ça, c'est une grande mission.
Alors, à propos de savoir, bon, en radio, on n'a pas l'image, donc on a les mots pour expliquer les choses. Un petit point d'histoire, même un gros point d'histoire, quand même. Alors, cette cité, bon, tout le monde la connaît, mais on la connaît de vue. Mais est-ce qu'on connaît bien les arcanes et l'historique? Certainement pas. Alors, on compte sur vous, Franck Doucet, pour nous rappeler un petit peu d'où elle vient et ce qu'elle est.
Est-ce que vous me donnez trois heures et demie pour...
Malheureusement, non, c'est pour ça qu'il faut faire court.
Ben voilà. Non, je pourrais vous dire et résumer ça d'une façon très simple, si vous me le permettez. Et je crois que quand on arrive à Carcassonne, ce qui frappe d'emblée, c'est qu'on comprend l'immensité de l'échelle temps qui a permis à cet ensemble de nous arriver aujourd'hui. Ce qui est absolument passionnant, c'est qu'on est sur plus de 2500 ans d'histoire, voire plus, et que nous avons toujours aujourd'hui les traces visibles de toutes ces époques successives. Vous allez pouvoir voir des tours carolingiennes absolument exceptionnelles où vous avez toutes ces briques qui montrent qu'on s'est appuyé sur les soubassements gallo-romains. Nous avons encore des traces très fortes et absolument magnifiques de toute cette période gallo-romaine. Nous avons, par exemple, dans une des salles du château, une mosaïque gallo-romaine qui est dans un état de conservation remarquable et qui est là et qui témoigne de l'ancrage depuis des millénaires de ce site. Et puis, vous avez bien évidemment la période médiévale qui est là, qui est celle qu'on retient, mais avec la particularité aussi d'une phase de restauration au XIXe siècle qui n'est pas banale.
Sur laquelle on va revenir.
Qui est celle de Viollet-le-Duc. Et donc, ce que l'on présente aujourd'hui au public, voyez-vous, c'est cet enchevêtrement de périodes absolument exceptionnelles. Alors, autant vous dire que, voilà, on peut y passer largement une journée sur le site et que le site le vaut largement. Au-delà de ça, c'est aussi un site qui prend place dans un environnement exceptionnel. Et ça, je crois que c'est une notion sur laquelle il est important d'insister. Quand on est justement au sommet de ces remparts, c'est une diversité de paysages qui nous raconte aussi une histoire. Mmh. Alors, par exemple, si vous me le permettez, je vous parlais de ce classement UNESCO en 1997, mais sachez qu'il y a un autre classement UNESCO qui est en préparation actuellement.
Ah, sur quel thème et bien sur quelles améliorations ?
J'y arrive, puisque je vous parle d'environnement. Quand vous allez être au sommet de ces remparts, vous allez voir tous les sommets pyrénéens, et vous allez pouvoir imaginer, vous savez, quelques-unes de ces grandes forteresses. Ces forteresses comme Montségur...
Alors les fameux châteaux dits cathares, à tort, on le sait.
Voilà, et ces forteresses du vertige.
Voilà les
forteresses. Mais ces forteresses du vertige vont être intimement rattachées au XIVe siècle, à Carcassonne, le sénéchal, le représentant du roi est là, et depuis Carcassonne, eh bien, avec ses forteresses, en une sorte de bien en série, si vous voulez.
Oui, un réseau finalement.
C'est ça, un réseau. Eh bien, on va pouvoir assurer la sécurité, la protection, la surveillance de la frontière qui est là, et donc c'est ce réseau-là exceptionnel, hors norme, qui va être proposé à l'UNESCO pour un classement.
C'est-à-dire Quéribus, Peyrepertuse,
c'est ça,
Montségur,
voilà,
etc.
Voilà. Hein. Et donc, ce qui fera de Carcassonne un site doublement inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Hein. Le premier article de l'UNESCO, il est là aussi pour dire et pour marquer l'exceptionnel environnement de ce site, et pour rappeler que cet environnement fait partie intégrante de la richesse de ce site.
Et alors, les remparts, ils n'ont pas toujours existé sous cette forme-là, et je fais abstraction de la rénovation, de la restauration de Viollet-le-Duc. À quel moment la ville prend un petit peu cette allure-là de ville fortifiée?
Ah, mais assez tôt, en fait, assez tôt, puisque dès la période gallo-romaine, il y a déjà des enceintes, et que bien évidemment, avec le développement urbain que l'on va connaître de façon très importante, particulièrement au XIIIe siècle, vous savez, les villes vont considérablement se développer au XIIIe siècle, s'organiser, la nécessité aussi de se protéger, ça veut dire aussi des moyens de défense nouveaux, l'architecture va s'adapter à ces contingences-là, et donc, voilà, au XIIIe siècle, la cité est importante, mais j'ai envie de vous dire que là, telle qu'on la voit aujourd'hui, son apogée, c'est le XIVe siècle, début du XIVe siècle, où vous avez cette cité-là. C'était le rêve de Viollet-le-Duc, hein, que de restaurer cette cité du XIVe siècle. Et puis,
le XIVe siècle, c'est-à-dire après la croisade
des
Albigeois,
voilà,
et après
le royaume de France
a pris possession de
la cité de Carcassonne. C'est d'ailleurs ce qui va permettre, pour marquer cette autorité, ce pouvoir, cette deuxième enceinte. Hein, donc, on renforce la fortification de la cité. Et j'ai envie de vous dire que depuis cette période, il y a, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'État, du domaine de l'État, il y a une perdurance, si je puis dire, de l'État français. Hein, c'est ce joyau a été dans la couronne de France et puis ensuite la République, et aujourd'hui il est toujours inscrit dans ce schéma-là.
Voilà, mais le seul grand siège qu'il ait subi, c'est avant cette période-là.
C'est ça, c'est ça.
C'est la période
c'est
de,
ça.
Voilà. De 1209, je crois, 1210,
voilà.
De la croisade des Albigeois. Et alors, donc, les remparts et le château comtal. Donc, évidemment, c'est la demeure du comte. Mais à quel moment les choses dans la hiérarchie?
Mais en fait, il y a eu deux périodes. En fait, on parle au XIIIe siècle de cette grande famille, les Trancavel, qui justement vont faire,
qui étaient les comtes de Carcassonne,
ou les vicomtes, et vont contribuer pour beaucoup à l'évolution architecturale de ce château. Puis ça va devenir le lieu du sénéchal, c'est-à-dire du représentant du roi de France,
du préfet de région.
C'est un peu ça, si vous voulez. C'est un peu ça. Et donc, du coup, ce château a une histoire. Là aussi, diverses, variées, évolutives, passionnantes, et il est adossé à l'intérieur des remparts, donc à un endroit où il va y avoir nécessité à fortifier encore un peu plus l'espace, puisque c'est le siège du pouvoir.
C'est ça qui peut surprendre, c'est que c'est un peu déjà un état dans l'état.
Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à nouveau, vous rentrez dans un système défensif, vous allez passer une barbacane, vous, avant, un pont-levis, vous allez donc passer au-dessus d'un fossé, puis vous allez ensuite pénétrer dans la cour d'honneur de cet ensemble. Donc, vous l'avez très bien résumé, c'est une fortification dans la fortification.
Voilà, mais ce qui pourrait laisser supposer que les comtes n'avaient pas confiance suffisamment dans le système défensif des remparts.
Je pense que c'est aussi tout simplement la nécessité de marquer que ce lieu est un lieu de pouvoir et qu'il faut le protéger tout
doublement.
Particulièrement. Voilà. Et donc, c'est ce qui explique aussi ce souci architectural de ce système défensif hors norme. Hein. Je crois que... Au-delà de tout ce que l'on peut dire, Carcassonne est une sorte de catalogue de tout ce que l'on fait de mieux en matière d'architecture militaire. Vous allez pouvoir, lors de cette déambulation, découvrir toutes les évolutions possibles et inimaginables en matière d'éléments de fortification militaire.
Et alors ce château comtal reste, si je puis dire, un état, dans la mesure où... Bon, n'importe qui aujourd'hui entre dans la cité de Carcassonne, se promène comme dans la ville, mais au niveau touristique, par exemple les visites payantes, ça commence par le château comtal.
Exactement, c'est-à-dire que le château aujourd'hui et les remparts, c'est le monument que l'on visite. Donc en effet, c'est ce que l'on appelle un lieu sous douane, c'est comme ça qu'on le qualifie, c'est-à-dire qu'il faut un billet d'entrée pour pouvoir pénétrer dans cet ensemble et le découvrir. Et à partir de là, en effet, on va proposer à nos visiteurs toutes sortes de formules pour leur permettre de le visiter... selon le temps dont ils disposent, selon leurs envies, une majorité d'ailleurs souhaite une visite autonome, hein, une visite libre, c'est-à-dire déambuler librement. Alors on peut leur mettre à disposition un audio guide, il y a un audio guide qui peut les accompagner dans leur visite libre. D'autres vont vouloir un peu plus.
Vont préférer suivre le guide.
Voilà, suivre le guide. Et donc on a des visites. D'ailleurs leur terminologie explique bien ce que quel est le propos des visites découvertes, c'est-à-dire vous allez passer une heure avec nous et en une heure, allez, on va vous donner tous les clés de compréhension du site. Mais bien évidemment, après, vous pourrez le visiter librement. Alors là, vous imaginez que vous êtes sur la demi-journée, voire plus. Et puis, on a une autre visite aussi. Alors celle-ci, elle me plaît beaucoup, si je puis dire. C'est une visite qu'on appelle « privilège ». Formidable d'être considéré de façon privilégiée.
Mais pourquoi est-ce qu'on se sent déjà noble quelque part?
C'est quelque part. Mais privilège, c'est aussi parce que vous allez avoir le privilège d'accéder à des espaces qui ne sont pas ouverts au public. Et vous allez avoir le privilège aussi de participer à une visite qui, de par sa temporalité, elle peut être en début de journée, en fin de journée, eh bien, vous allez avoir le sentiment d'être quasi seul sur le site. Et sur une cité qui accueille plus de 2 millions de visiteurs, c'est pas rien, exactement. Et puis surtout, de superbes levées de soleil, de superbes couchers de soleil. Enfin voilà, cette visite privilège, si vous la cumulez à la déambulation libre, je vous garantis que vous y passez la journée. Et ça aussi, c'est un privilège.
Voilà. Et comme dirait le guide Michelin, vaut le détour.
Ah, vaut largement le détour. Oui,
on marque, Franck Doucet, une seconde pause.